soir, ce sont toujours les guitares de Dick Wagner et de Steve Hunter qui ouvrent cette onde noire, l'émission polaire la plus rock de la bande FM. Bonsoir Corinne.
Bonsoir Jacques, tu as l'air bien en forme ce soir. Bon. Alors, au sommaire de cette émission, d'abord on va parler d'un magazine. C'est assez rare les magazines sur le polar. Donc on va parler en plus d'un beau gros magazine, ce qu'on appelle maintenant un MagBook, Alibi. Puis, ce sera un spécial...
Alibi, c'est le nom.
Alibi, c'est le nom du magazine. Ce sera un spécial Sam Millar, un auteur, je parie que vous ne le connaissez pas, mais il faut absolument se jeter sur ses romans. Et dans une deuxième partie, nous retrouverons, après les coups de cœur, le coup de cœur de Jacques, Jean-Marc Lehrer pour sa chronique irrégulière et spontanée, on va dire. Voilà, donc comme je vous le disais, on va commencer par un magazine. Son nom, c'est Alibi, et j'aime beaucoup le sous-titre. En fait, je trouve le sous-titre plus malin que le titre. Ça s'appelle « Vous en aurez tous besoin un jour d'un alibi ». Donc, il faut se balader avec cet alibi dans son sac ou sous le bras. Comme je le disais, c'est un magazine. Mais un magazine au format original, à la maquette très particulière. Magazine trimestriel, autour du... Allez, pour le définir, on doit dire autour du monde policier. En gros, pour englober toutes les facettes du mag. Et évidemment, qui dit monde policier parle de polar. Et le polar, il y a une place prépondérante. Les deux créateurs, tout au moins les deux personnes qui sont à l'initiative de ce magazine, Marc Fernandez et Paolo Bevilacqua, je suppose avec quelques complices, ont donc imaginé une maquette très originale, avec un format mi-livre, mi-magazine, pour une épaisseur de 250 pages, qui veut donc traiter à la fois de sujets de société, à travers quand même des histoires policières, et aussi sous le prisme du polar. Des articles très variés, alors on a des reportages, des interviews, un article très intéressant sur R.J. Laurie, une interview de Marcus Malt, ne loupez pas ses harmoniques, vous n'en reviendrez pas, des interviews aussi, comme je l'ai dit, des articles sur des histoires policières, sur des affaires policières, comme les articles sur l'affaire Guy Georges, un dossier sur les auteurs, qu'ils soient flics ou voyous, des fois ils sont flics et voyous. Très belle iconographie, des chroniqueurs variés, les créateurs en fait semblent parier sur un éclectisme et ça c'est totalement réussi. J'aime en particulier beaucoup les illustrations sur l'affaire Guy Georges et sur le monstre de Gênes. Ce sont des espèces de crayonnés, de dessins qui rappellent un peu certains carnets de voyage avec des petits détails, des cartes, des crayons posés dessus. C'est vraiment ça très très réussi. On trouve ce magazine chez les libraires. Je ne sais pas trop chez les marchands de journaux.
Mais théoriquement, c'est en librairie.
C'est en librairie. On peut aussi s'abonner. Il y a des petits... Et puis, on peut le trouver chez... on peut le trouver sur Internet. Le format se reconnaît aisément. Son prix, 15 euros. Ça peut vous paraître excessif, mais encore une fois, je l'ai dit au début, 150 pages. Et puis, c'est un trimestriel. En gros, il y a autant à lire que dans un roman, donc... Par contre, petit détail, si vous voulez aller sur le web pour vous renseigner, faites gaffe, il y a un autre magazine, aussi trimestriel, qui s'appelle Alibi. Mais là, il y a un S. Alibi avec un S, et puis ça nous vient du Canada. Donc là, Alibi, c'est au singulier. J'enchaîne. Comme on dit, sans hésitation, j'enchaîne sur Sam Millar. Deux livres d'un même auteur. C'est rare qu'on parle de deux livres dans une même émission. Sam Millar. Tout ce qu'on sait de lui sur cet auteur, à part qu'il est irlandais, c'est peu puis c'est à la fois beaucoup. C'est un ancien de l'IRA et il a passé 20 ans dans les geôles anglaises pour braquage. En gros, de quoi avoir du feu, du sang et des cendres dans la tête. Mais toutes ces cicatrices, qui à mon avis ne se refermeront jamais, ces démons, Sam Millar en a fait un atout pour écrire des histoires en fait. Et ces histoires sont emplies de personnages. Vous le verrez tout droit sorti du film Freaks. Et imaginez des univers, à la fois ultra réalistes et totalement fantasmagoriques. A-t-il vraiment choisi d'ailleurs d'écrire ces histoires? Je ne sais pas. J'espère vraiment un jour le rencontrer pour lui demander parce qu'il a un univers à la fois très riche et très particulier. J'ai découvert cet auteur en lisant son deuxième roman traduit. Ce roman s'appelle Redemption Factory. Il est sorti chez Fayard Noir l'hiver dernier. Il est traduit par Patrick Reynal. Et évidemment, m'étant régalée, je me suis précipitée sur le premier, qui est sorti chez le même éditeur en 2009, lui aussi traduit par Patrick Reynal. Patrick Reynal, apparemment d'ailleurs, découvert cet auteur irlandais. Belle découverte, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. D'Irlande, on vous parle assez régulièrement d'auteurs. On vous parle par exemple de Ken Bruen, qui, à travers sa série R&B, Robert and Brandt, et son personnage de détective Jack Taylor, nous livre une vision de l'existence, on va dire, plutôt désespérée, mais qui est quand même pas mal teintée d'humour et d'ironie. Il y a Colin Batman aussi, dont les récits, comme l'autruche de Manhattan, sont aussi, on peut dire, un peu déjantés. Là, on garde le côté désespéré, mais n'espérez aucun humour et aucun espoir dans ces récits. C'est noir de noir et c'est magnifique. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai commencé par Redemption Factory. Il n'y a pas de raison, on commence par Redemption Factory. Comme l'autre, c'est un livre pas facile à résumer. Lecture coup de poing, sorte de séisme, une espèce, on va dire, de petit tremblement de tête, petit tremblement d'esprit. On peut vous parler de l'histoire, mais en fait, il y en a plusieurs, des histoires, et qui vont voler en miettes, en gros comme les destins des personnages. Tout commence dans ce livre, et tout va finir d'ailleurs, par une naissance, un baptême. Mais quand on est chez Sam Millar, c'est pas ce qu'on peut imaginer. Le baptême, il est de sang. Et la naissance, c'est une renaissance. Je cite, « Il semblait sortir d'une matrice, tout gluant et visqueux. » Pourtant, c'est un grand garçon, Paul Goodman. C'est même un adulte. C'est en gros un jeune paumé au chômage. Et il vient essayer de se faire embaucher à l'abattoir en passant brillamment le test, un bain dans le sang des animaux abattus. C'est un petit génie du billard et il doit travailler, c'est sa seule possibilité de travail, il doit travailler pour Shank, qui est le directeur des abattoirs, mais lui, il a aussi du sang sur les mains et ça n'a rien à voir, quoique, deux filles marquées dans leur chair. Alors ça, deux filles, deux véritables harpies. Il y a d'abord Jordi, je ne sais pas trop comment ça se prononce, appareillée de, on dit, bretelles en acier au niveau des jambes, elle est très handicapée. Et puis l'autre fille, Violette, dont le visage est grêlé par des milliers d'éclats de verre qu'elle a eu après un accident et qu'on n'a jamais pu lui enlever. Violette tombe amoureuse de Paul, mais lui est inexplicablement attiré par Jordi. Autre histoire, de l'autre côté de la ville, Philip Kennedy semble expier une faute énorme en supportant son impotente de femme, impotente et chiante, et son magasin d'objets d'occasion. Le magasin appartient à sa femme et Philippe s'en occupe puisque elle passe son temps au lit. Et c'est de là, Philippe, qui semble expier sa faute, et Paul Goodman, qui a la faute d'un autre, de son père avant, qui a disparu il y a très longtemps. Le fait que tous les deux se rencontrent, on sent qu'il y a une espèce de boîte de Pandore qui s'entrouvre, et en même temps qu'une espèce de filiation entre les deux. Le passé de chacun va se ressurgir, et ça va éclabousser de violence et de mort chacun des protagonistes du livre. Permettant, comme je le disais au début, peut-être, une renaissance. Tout est symbole dans le livre. Les personnages atteints dans leur chair, les abattoirs, une espèce de chapelle Sixtine rouge écarlate. C'est vraiment une histoire avec une écriture étonnante, sans effet de manche, sans enfance, sans emphase, malgré des scènes complètement intenses et j'oserais dire paroxystiques. J'en dis pas plus, je lis un petit extrait. Rouge, que serait le monde sans ça? La plus attirante des couleurs, primaire dans sa supériorité. Les roses, les pommes, le pain et la Saint-Valentin. Les couchers de soleil pourpre et l'amour ardent. Le rouge est un élément et un attribut du pouvoir, de la vitalité, de la passion, de la colère et de l'excitation. Le rouge les gouverne. Mais sans aucun doute, le plus important, le rouge est la couleur du sang. Sans lui, nous ne sommes rien, c'est un donneur de vie. Quand vous tombez à l'improviste sur une action, au moment même où elle survient, tout mouvement est figé. Le son ne se propage plus et ce que vous voyez n'est pas la réalité. C'est ce qui arriva à Paul quand il se retrouva en train de nager dans le sang, une mer de sang, conscient que, s'il ne réagissait pas tout de suite, le donneur de vie se transformerait vite en auteur de vie. Voilà, la naissance commence, le bouquin démarre, vous n'avez pas fini d'être étonné. On va faire une petite pause.
Une petite pause musicale avec un musicien irlandais aussi, hélas décédé tout à fait, enfin assez récemment, un musicien de blues, de hard rock, de heavy metal, mais surtout le blues ces derniers temps, c'était Gary Moore, et cette chanson s'appelle « If the Devil Made Whiskey ». «
Donc après Gary Moore, donc peut-être tu pouvais dire, tu avais envie peut-être de dire la deuxième phrase ou le sous-titre de
oui,
cette...
Oui, the devil made whiskey, he made my wife too.
On ne donnera pas la traduction.
Non, c'était pour Gary Moore, c'est pas pour...
Mais bien sûr. Sam Millar, l'Irlandais, lui aussi qui écrit en anglais et qui traduit par Patrick Reynal. Donc pour un deuxième livre, livre paru en 2009 et qui s'appelle « Poussière, tu seras ». Dans ce roman, comme dans l'autre d'ailleurs, la plupart des personnages sont à la dérive. Il y a Adriane et son père qui tentent d'oublier la mort de sa femme dans un accident de voiture. Est-il responsable ou pas, vous le saurez au fur et à mesure. Il est complètement accro à l'alcool. Judith, elle aussi dépendante, elle c'est à la drogue. Cette drogue lui est fournie par Jérémia, son mari, qui est barbier. Oui, il n'est pas coiffeur, il est barbier de son état. Il est tellement barbier qu'il utilise encore le coupe-chou traditionnel pour faire les coupes et pour faire les barbes. Son associé aussi, Charlie, fait la même chose. Non, pardon, Charlie, c'est un autre personnage. Charlie, c'est le clochard, qui va trouver un cadavre décapité, dans son antre de malheur. Adriane, l'enfant du début, s'évade donc souvent dans la forêt. Il fait l'école buissonnière, peut-être un peu à la recherche de la tranquillité et de sérénité. Et va trouver un os, sous l'œil goguenard d'un corbeau, qu'on n'a plus pour très longtemps. Il est complètement moribond, le corbeau. Et le fait d'avoir trouvé cet os, c'est un petit peu... Je parlais de boîte de Pandore tout à l'heure, mais c'est un petit peu quand un personnage arrive dans un film et crée la panique, ça va déchaîner tous les événements tragiques qui vont se passer autour de cette petite ville. Au milieu du livre, Adrienne disparaît. Son père irait jusqu'à l'enfer pour le retrouver. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il va vraiment trouver l'enfer. Et comme dans tout bon roman noir, les salauds ne sont évidemment pas ceux à qui on a pensé. Il y a une fin qui est totalement incandescente, qui est tout à la fois d'un thriller, parce qu'il dévoile, on s'y attend pas du tout, mais ce qu'il dévoile en fait un grand roman noir, parce que c'est une histoire sociale absolument terrible. Chez Sam Millar, je parlais des autres auteurs d'Irlandais, c'est un petit peu pareil, tout ramène à la religion. Les titres, Redemption Factory, Poussière tu seras, mais aussi les prénoms. Prenons Jérémia, par exemple, Jérémie le prophète, et ses psaumes de la lamentation. Il y a le personnage de Judith aussi. Je ne sais pas si vous voyez les fameux tableaux qui sont consacrés à ce personnage biblique. En tout cas, le tableau du Caravage, Judith décapitant en Louferne. C'est pas pour rien qu'elle s'appelle Judith. On parlera de décapitation. Puis le Caravage et ses célèbres clairs-obscurs, il y en a un certain nombre dans le livre. Il y a aussi les tableaux de William Blake dans Redemption Factory, inspiré de visions bibliques. Le baptême de sang de Paul Goodman, j'en parlais tout à l'heure, au début de Redemption Factory. Le sacrifice des animaux, les stigmates des personnages. les deux femmes qui sont marquées dans leur chair. Il n'y a pas qu'elles, il y en a plein d'autres. Et puis avant tout, les destins de ces personnages. Ils portent le péché, d'ailleurs rarement le leur, ceux des autres. Paul, c'est ce qui a été fait à son père. Adriane, c'est celui de quelques-uns et de son père. Dans Poussière, tu sauras, il y a Judith aussi, qui porte le péché, mais des autres. Et le mal triomphe, en fait, dans l'univers de Sam Millar. Même si, après avoir été durement marqué dans leur chair et leur âme, on peut dire qu'il ramène, sans dévoiler les fins, on peut dire qu'il ramène quelques personnages vers la lumière. Mais je vous dirai pas lesquels. En gros, pour conclure sur ces deux romans, c'est aussi simple, aussi sombre qu'une panne de Guinness, aussi amer et aussi âpre, mais c'est franchement tout aussi bon. Et contrairement à la panne de Guinness, vous pouvez lire Sam Millar sans modération. Sauf que, évidemment, pour l'instant, il n'y a que deux romans qui sont traduits. On espère vraiment que Fayard Noir, que ça va avoir assez de succès pour que Fayard Noir continue à traduire les autres, parce que il y en a d'autres. Il y a son site, vous pouvez aller voir son site. Vous tapez Sam Millar sur Google. Et il y a un site. Évidemment, le site est en anglais. Mais l'iconographie du site situe bien le personnage. Et vous avez un résumé en anglais de ceux-là et de ceux qui sont aussi traduits. Je rappelle, avant de laisser l'antenne pour les informations, le magazine qui vient sortir, magazine...
La Revue Alibi.
Revue Alibi, entièrement consacré au monde du polar, que ce soit dans la vraie vie ou dans les romans. C'est la Revue Alibi. Vous en aurez tous besoin un jour. Voilà. C'est pour 15€, vous avez 150 pages de reportages et d'articles. Ça vaut le coup, il faut l'essayer. Voilà, on se retrouve tout à l'heure.